Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une histoire qui, heureusement, a fait un certain bruit en novembre dernier. La jeune femme a 23 ans. Elle vient d'être embauchée pour 6 mois comme hôtesse de caisse dans un magasin Auchan City à Tourcoing. Rapidement, elle apprend qu'elle est enceinte, un état qui s'accompagne comme souvent de fortes nausées et de vomissements. Elle demande alors à ce que ses pauses soient aménagées pour répondre à ses difficultés temporaires. Ces arrangements lui seraient refusés, dit-elle, par des supérieurs inflexibles. Les vertiges et les malaises se poursuivent jusqu'à ce jour de la fin du mois de novembre où, alors enceinte de 3 mois, elle ressent de très fortes douleurs dans le ventre. Elle dit alors avoir alerté un responsable en vain. Lorsque les douleurs se font plus violentes et qu'elle se décide à enfreindre les règles et à quitter sa caisse, lorsqu'elle se lève enfin de son tabouret, la jeune femme découvre que son siège est plein de sang, tout comme son pantalon. Prise de panique, écrit Le Parisien qui relate l'affaire, elle demande au client de prendre une autre file d'attente et s'enfuit. À voir le sang continuer à couler, elle comprend bientôt qu'elle est en train de faire une fausse couche et expulse finalement le fœtus dans les toilettes du supermarché. De son côté, l'entreprise citée par Marianne assure qu'elle a rapidement alerté les secours et pris en charge l'hôtesse dès qu'elle a été informée du problème. L'employé, après avoir passé une nuit à l'hôpital, se voit reprocher d'avoir quitté son poste sans prévenir, privé d'une partie de son salaire. On lui refuse, ajoute-t-elle, la qualification de cette fausse couche en accident du travail. Auchan affirme de son côté n'avoir pas plus reçu d'arrêt maladie que d'avis d'accident du travail. Il faut dire que c'est un supermarché, précise la CGT, où en juillet, par exemple, une caissière a été licenciée pour un préjudice de 85 centimes d'euros. Elle a été ensuite, sachez-le, et rassurez-vous, réintégrée. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont 2 autres histoires de fausses couches qui font suite à la série que nous avions diffusée il y a 15 jours sur l'accouchement. 2 histoires entre sexisme, violence sociale et harcèlement médical qui parleront hélas aussi à celles et ceux qui n'ont jamais fait de fausse couche, mais juste essayé de comprendre à défaut de décider, de s'informer, à défaut de participer réellement à ce qu'on fait à leur pauvre corps, comme on l'entend jusqu'à 14h au micro de Charlotte Bien-Aimée. Vous écoutez Les Pieds sur Terre et vous êtes sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'étais enceinte de jumeaux. Et lors de l'échographie du 4e mois, il s'est avéré que les 2 poches étaient rompues et que les 2 petits fœtus étaient toujours vivants, mais condamnés. La gynécologue donc a annoncé de façon très... C'est-à-dire avec beaucoup de tact la situation, tout en étant très clair sur le fait qu'il n'y avait aucun espoir pour que la grossesse puisse aboutir à terme. La procédure était qu'elle m'hospitalise sur le champ et qu'on procède alors très vite au déclenchement de l'accouchement pour évacuer la grossesse qui de toute façon s'avérait non évolutive. Moi, j'ai juste eu le temps de prévenir mon compagnon pour dire que les choses se passaient mal. Le temps de le prévenir, elle m'embarquait dans les ascenseurs, m'installant dans une chambre. Et après coup, j'ai appris que j'étais déjà inscrite pour une hospitalisation. Je me suis retrouvée seule dans cette chambre d'hôpital. Et là, je me suis remémorée une fausse couche que j'avais faite plusieurs années auparavant. Une fausse couche beaucoup plus précoce, donc c'était à 2 mois de grossesse. Et quand il s'est avéré que la fausse couche était en route, moi j'ai suivi à la lettre les recommandations de ma gynéco, qui est de prendre des cachets, d'évacuer au plus vite le contenu de mon utérus. Et j'étais vraiment traumatisée par la violence de cet acte, donc c'était hyper douloureux. J'ai saigné vraiment beaucoup sur le moment même, pendant toute la nuit, puis pendant des semaines. Et j'ai vraiment gardé un très très mauvais souvenir de cet épisode-là. Et puis, le fait qu'elle me dise, ben voilà, c'est comme des règles, on en a un peu plus fort, donc vous tracassez pas, c'est rien du tout. Et puis, je me suis retrouvée avec des douleurs insoutenables, en pleurs, pendant des heures et des heures, à évacuer dans les cuvettes des WC. Je suis retournée une semaine après aux urgences, toujours avec des douleurs, j'ai l'impression que mon utérus se déchirait. Et après, j'ai jamais digéré cette grossesse-là. J'ai dû attendre d'avoir un enfant pour vraiment pouvoir faire le deuil de cette fausse couche qui était tellement mal gérée. J'ai pas eu le temps de m'habituer à cette idée que la grossesse n'allait pas aboutir. J'étais prise dans une espèce d'émotion intense. Cette fausse couche qu'il faut oublier très vite sans avoir eu le temps de la poser. Alors du coup, je me suis dit maintenant, je veux prendre le temps cette fois-ci de vivre les choses lentement, de prendre les décisions qu'il faut et surtout de pas rentrer dans une logique de précipitation, pas rentrer dans une logique où on prendrait des décisions pour moi sans que je les comprenne vraiment, je voulais devenir vraiment actrice de ce qui m'arrivait et voilà. Alors du coup, j'ai demandé le détail. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on attend, soit on déclenche. Et donc si on attend, en fait, l'accouchement se provoquerait tout seul, il ne serait pas douloureux ou presque pas douloureux, et irait assez vite. En revanche, si on déclenche, là, ce serait beaucoup plus douloureux, beaucoup plus long, mais c'est pas grave, j'aurais la péridurale. Déjà, intuitivement, j'étais plutôt intéressée par l'accouchement naturel et attendre que les choses se fassent en douceur. Et alors, du coup, se posait la question des risques. Le risque d'infection et le risque d'hémorragie. Bon, alors dans mon cas, le risque d'infection était peut-être le plus évident dans l'immédiat. Et je lui ai demandé donc qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ce risque d'infection. Il m'a dit, mais il suffit de prendre une prise de sang. Chaque jour, une prise de sang. Et donc, j'ai commencé à lui poser cette question-là, en disant, bon, si on faisait comme ça, je rentre chez moi, je reviens le lendemain, je fais ma prise de sang, s'il n'y a pas de risque d'infection, je retourne chez moi, et on attend tranquillement que l'accouchement se mette en route. Et on a pu négocier, donc, cette façon de faire. À la fois, ils ont été vraiment formidables, d'une certaine façon, d'accepter, de nous accompagner, sans cautionner ce qu'on faisait, mais sans nous l'interdire non plus. Donc on rentre à la maison. J'avais toujours ces petits dans mon ventre, je les sentais toujours bouger. Et puis il faut vraiment faire le deuil de tout, parce qu'on a déjà la maison qui est préparée pour l'accueil des petits. Et c'est ça le plus difficile aussi. Et je me dis, quelque part, le fait de l'avoir vécu tout de suite est plus facile qu'être hospitalisé 3 jours et puis rentrer le ventre vide et devoir à ce moment-là être confronté à tout. C'était triste, évidemment. Bon, ouais, la vie est suspendue et le lendemain, mon copain a une super idée qui était de faire des photos. Et donc, on a cherché une photographe qui nous a fait des photos professionnelles, moi avec mon gros ventre. Enfin, en fait, c'était un moment très joyeux, enfin, bizarrement joyeux. Enfin, il y avait quelque chose de vivant, voilà. Donc, l'idée, c'était de faire des photos, des belles photos, y compris une qu'on garderait pour faire un message Facebook. Pour l'annoncer à tout le monde. Annoncer qu'il y a des petits qui sont toujours vivants, mais qui allaient mourir, mais qu'on voulait quand même l'annoncer. C'était très important, justement, par rapport au tabou des fausses couches. Il faut en parler parce que, déjà, c'est une expérience fondamentale de beaucoup de femmes. Oui, on nous dit, effectivement, qu'il ne faut annoncer la grossesse qu'après 3 mois, pour être sûr. Finalement, ces 3 mois, c'est justement cette période la plus sensible par rapport aux fausses couches. Et donc, les femmes se retrouvent seules à vivre quelque chose de grave, de très triste, sans avoir pu annoncer la bonne nouvelle préalablement, et devoir encaisser des douleurs psychologiques, physiques, des saignements, un mal-être qui peut durer pendant des mois sans aucun soutien, parce qu'elles sont seules. Donc c'est quelque chose qui ne se raconte pas, quoi. Donc c'est tout à fait un non-dit. Et quelque part, le fait de plus se sentir seule, de se sentir avec plein de gens qui m'envoient plein de messages, ça fait énormément de bien. Et alors, le vendredi, donc une semaine plus tard, il s'avère qu'un des deux petits est mort. Et moi, ça m'a soulagée. Je me dis, tiens, bon, il est mort. Au moins, je ne le tuerai plus en accouchant. Et le lundi matin, on me le vend, il sort. Sans aucun effort, sans douleur. Voilà, un petit corps que j'attrape, qui est une quinzaine de centimètres. Mou comme ça, chaud, tout rouge. Et en même temps, un petit fœtus, quoi. Donc, un peu comme on se le représente avec une grosse tête, comme ça, des petits bras, des petites jambes. Donc, moi, j'ai pas du tout ressenti de répulsion, de dégoût. Et donc voilà, donc je récupère, je le mets dans l'évier, en attendant de vous mettre quelque part. Et donc je vais réveiller mon compagnon en disant, voilà, il est né, qu'est-ce qu'on fait? Donc il vient voir. Et puis il dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que la question se pose, du coup. On dit, en plus, le deuxième était toujours dans mon ventre, le placenta n'était toujours pas sorti. Puis on se dit, bon, après 5-10 minutes, on se dit, bon, on va quand même le mettre dans une petite boîte dans le frigo. En attendant, on verra bien. Donc, on ne voulait pas le laisser comme ça, en attendant, ne sachant pas non plus ce qu'on voulait en faire. Parce que pendant cette première semaine, se posait aussi de quid des corps. Alors, on avait le choix entre deux solutions. C'était soit les funérailles à 1000 euros, comme si c'était un enfant, enfin une personne. Soit alors, c'est un déchet hospitalier, ça part dans un déchet hospitalier. C'est tout. Donc ça, c'est en Belgique. Donc en France, il y a encore quelque chose d'un tout petit peu intermédiaire qui consiste à rassembler tous les fœtus et les incinérer ensemble. En Belgique, ça n'existe pas. Les funérailles, moi, ça me semblait trop, parce que 1000 euros pour enterrer un fœtus qui n'était pas encore un humain, à mon sens, ça me semblait exagéré. Mais d'un autre côté, les déchets hospitaliers, c'était un peu trop, pas du tout, quoi. Donc j'aurais voulu vraiment quelque chose d'intermédiaire qui corresponde à ce que c'était en tant que fœtus. Et bon, j'avais pas de solution, mais du coup, le fait d'avoir le corps à la maison, ça permettait d'avoir plus de liberté dans l'élaboration de qu'est-ce qu'on allait en faire. Je retourne, je crois, le lendemain à l'hôpital pour faire une échographie. Je m'étais dit, le deuxième, à mon avis, est mort aussi, parce que je le sentais plus. Et effectivement, il s'est avéré que le deuxième était mort aussi, donc. Et ma sage-femme qui me dit que les risques d'hémorragie sont beaucoup plus élevés. Que donc je devrais peut-être accoucher à l'hôpital pour le deuxième. Je me sentais prête à accoucher à l'hôpital. Mais moi, à ce moment-là, j'avais un autre souci qui était que si j'accouchais à l'hôpital, le problème se posait que je ne pouvais pas récupérer le corps. Donc je ne pouvais pas me résoudre à l'idée qu'ils seraient séparés. Et donc on s'est dit que la seule solution de récupérer ce corps, c'était que j'attende encore à la maison. Alors du coup, on commence à réfléchir avec mon compagnon, avec la sage-femme, en disant, bon, quelle est la conduite à tenir en cas d'hémorragie? Et alors, la sage-femme explique à mon compagnon comment faire une piqûre d'ocytocine qui contracte l'utérus et qui permet de ralentir l'hémorragie le temps du transfert à l'hôpital. Et on parvient à se procurer le fameux kit de survie de ces sages-femmes à la maison. Donc on se retrouve avec tout le matériel qu'il faut, y compris mon compagnon qui est capable de faire des piqûres. Donc tout était en place au cas où il y aurait une hémorragie. Et le lendemain, on prend notre pas. Je sens qu'il y a une pression sur le col de l'utérus. Je vais vite aux toilettes et là, flatch, c'est effectivement le deuxième qui arrive avec beaucoup plus de sang. Donc effectivement, il naît sans effort. Moi, j'étais même contente, quoi, qu'il arrive à la maison, que c'était quelque part l'aboutissement de ce que je voulais. Et donc, du coup, on récupère dans un petit sachet. Et moi, je continue à perdre du sang. Et on dit, bon, bah alors, protocole se met en route. Mon compagnon fait la piqûre. Donc, la sage-femme arrive assez vite à la maison. Elle nous emmène avec sa voiture, elle, donc jusqu'aux urgences. Et voilà, donc j'ai passé la nuit à l'hôpital. Soulagée, parce que finalement tout s'était passé exactement comme je le voulais. Mais bon, même s'il y a eu l'hémorragie, le fait d'avoir pu vivre les choses jusqu'au bout, d'avoir pu récupérer deux petits corps à la maison, mais c'était vraiment comme je l'avais souhaité. Et puis alors voilà, on est rentré à la maison. Bon, après, donc le lendemain, on a décidé d'aller enterrer les petits dans le village de mes ancêtres. Donc j'avais des grands-parents qui venaient de là. Il fallait trouver un endroit qui avait du sens, qui était à la campagne, où on pouvait aller discrètement enterrer des petits au pied d'un arbre, quoi. Donc, voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
C'était il y a un peu plus de 3 ans. Je suis tombée enceinte pour la première fois. J'allais sur mes 25 ans. Et pour la première échographie, on y allait vraiment très confiant. Mais très vite, je me suis sentie assez mal à l'aise. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Elle est restée très silencieuse pendant tout ce temps-là, en disant juste, voilà, je vais regarder mieux, j'ai besoin de mieux regarder, mais sans dire quoi ou comment. Et puis, à un moment, elle s'est arrêtée et elle a dit, je suis désolée, là, il y a une malformation cérébrale grave, donc le fœtus n'est pas viable, il va falloir interrompre la grossesse. Donc on s'est effondré en fait. Dans le cabinet, elle nous a proposé d'aller dans une pièce à côté pour nous calmer un peu. On a pleuré un bon coup tous les deux. Elle nous a juste dit, voilà, je vous ai fixé ce rendez-vous demain matin à telle heure en vue de l'interruption de grossesse. Et le lendemain matin, on est parti au CHU sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Et donc, on s'est retrouvés au CHU. Je crois qu'on a attendu presque 3 heures dans la salle d'attente avec plein de femmes enceintes. Moi, je me souviens juste avoir pleuré, à me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais là? Et à un moment, donc, je vois un homme passer dans le couloir qui était au téléphone, qui parlait très fort et qui prenait beaucoup de place. Et il avait du sang sur sa blouse. Et je me dis, j'espère qu'on va pas tomber sur lui, il a l'air... Enfin, j'ai vraiment pensé en le voyant dans le couloir, qu'est-ce que ce mec a l'air désagréable. J'ai pas trop envie d'avoir affaire à ce genre de personne là maintenant. Et c'est sur lui qu'on est tombé en rendez-vous, évidemment. Et là, je me dis, bon, bah on va voir comment il va être. Et là, pas bonjour, directement, il nous dit sur un ton un peu brutal... Bon ben, qu'est-ce qu'on vous a dit? Là, je reste un peu... je comprenais pas, en fait. Donc je lui dis, je sais pas, par rapport à quoi Et là, il a vraiment pris un ton moqueur, en fait. Il a dit, on vous a pas dit que tout allait bien, quand même? Et je lui dis, non, c'est sûr. Je venais à peine de m'arrêter de pleurer... J'étais vidée et en fait, j'arrivais plus à me défendre. Et là, il ressort les échographies, nous redit, vous voyez, c'est grave, là, on voit sur le papier, hein, là, ça va pas. Hein, oui, on sait. Donc, il nous donne le déroulé un peu des rendez-vous qu'on va avoir. Vous allez voir une généticienne, vous allez faire ça, et puis on va caler la date comme ça. Et puis aussi, on va vous faire une ponction dans l'après-midi. Tout était déjà calé. Après, on est revenu nous chercher. On m'a dit, venez, on va vous faire la ponction. Donc, je comprenais toujours pas ce que c'était. Et donc, mon ami s'est levé avec moi. Et là, on lui a dit, vous venez pas. Et je lui ai dit, pourquoi? Je comprends pas, mais qu'est-ce qu'on va me faire, en fait? Et là, on m'a expliqué que c'était une amniosynthèse. En gros, c'était pour faire un prélèvement au niveau du liquide amniotique et on enfonce une grande aiguille dans le ventre, en fait. Là, c'était pour regarder si la malformation était due à un type de trisomie. Et donc, on était dans la salle d'attente à ce moment-là et en fait, j'ai vraiment crié... Mais non, je veux pas. Je me suis remise à pleurer. J'ai refusé. Et là, une sage-femme m'a prise à part et m'a vraiment regardée dans les yeux. Elle m'a dit avec une voix très douce, vous savez, c'est vraiment important de le faire. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? C'est important. Il fallait faire des examens pour savoir d'où venait cette malformation, parce que peut-être, si c'est génétique, on va avoir des risques accrus d'avoir une autre grossesse avec une autre malformation derrière, alors il faut savoir d'où ça vient. On ne nous a jamais demandé. Est-ce que vous voulez savoir ou non? Peut-être que ce n'est pas important pour vous, alors dans ce cas-là, on vous fiche la paix, on essaie juste de faire en sorte que l'interruption médicale de grossesse se passe au mieux pour vous, et c'est tout. Non, là, il y avait vraiment une insistance sur la recherche. Il fallait chercher la cause, il fallait chercher. Il y avait une telle pression, et j'avais pas de recul, et j'étais tellement paumée à ce moment-là. J'avais pas du tout envie, mais j'ai fini par céder. Parce que j'avais juste envie que ça se termine, en fait. Et donc, on m'a installée sur la table. On m'a mis une musique, soi-disant, pour me détendre. J'ai pensé, je sais pas, en entendant la musique, je me suis dit « restaurant chinois ». Puis, donc on m'a dit « Ah, on vous met un produit anesthésiant sur le ventre, vous n'allez rien sentir. » Et j'ai senti l'aiguille passer. Et j'ai sursauté. J'ai eu un gros sanglot. Et là, j'ai entendu la voix du obstétricien que j'avais vu en début d'après-midi. Et j'ai reconnu sa voix. Il était rentré dans la pièce, mais je ne savais pas que c'était lui qui faisait l'intervention. Il ne s'était pas représenté. Et là, j'ai entendu sa voix qui a dit « Ah ben non, mais faut pas bouger comme ça, je vais faire des conneries, moi, madame. Faut se tenir tranquille, là. » Et là, j'ai sangloté en essayant de pas trop bouger, mais en même temps, j'arrivais pas à retenir mes sanglots. Donc mon ventre se contractait. Enfin, je me disais « Mais à quoi ça rime, ce truc ?» Et après, l'interruption de grossesse, c'était une très très longue journée, parce que ça commençait à 7h du matin, et donc on m'a perfusée. Une sage-femme venait m'introduire dans le vagin, des cachets pour provoquer les contractions, qui allaient dilater le col. Et en fait, quand le col était à dilatation complète, là on m'a emmenée au bloc... Et je m'étais dit, bon, ça va être un très mauvais moment à passer, mais sois forte. Je me disais, bon, ça va me faire comme des douleurs de règles assez fortes, mais ça va aller. Je pensais que ce serait largement supportable. Alors que je me suis retrouvée avec un truc à devenir dingue, à crier... Ça irradiait à partir du ventre jusque dans le dos. J'avais vraiment peur. Et dans ces moments-là, je savais pas du tout à quoi me raccrocher. J'étais pas préparée. La sage-femme venait juste mettre les cachets. Voilà. Et à un moment, je l'ai appelée quand vraiment j'arrivais plus. Enfin, j'étais en train de hurler dans la chambre, donc j'ai appuyé sur le bouton pour l'appeler. Elle m'a juste dit... Écoutez, c'est les contractions, c'est comme ça, faut l'accepter. Elle est partie. Mais je pense qu'elle avait vraiment l'air d'être débordée, d'être fatiguée. Elle pouvait pas être là pour m'accompagner et j'avais besoin de me raccrocher à quelqu'un d'autre, enfin de capter un regard ou quelque chose. Donc il y avait une aide-soignante qui venait de temps en temps. Donc je me suis accrochée à cette femme très très fort. J'ai essayé de la regarder, vraiment de mettre mon regard dans le sien. Et là, je me suis sentie vraiment très seule parce que j'ai eu l'impression de voir un regard vide. Enfin, elle n'était pas là. Quand je me suis vraiment mise à hurler, à dire que j'en pouvais plus, on m'a mise sous dérivée de morphine. J'étais complètement comateuse après. Mais sur le coup, ça m'a donné une soif, mais horrible. Et j'ai commencé à dire, mais pitié, mais donnez-moi de l'eau. On m'a dit, non, non, on peut vous tamponner les lèvres avec de l'eau. J'ai dit, non, non, mais là, j'avais l'impression que j'allais mourir de soif, que ma gorge se desséchait. Et en même temps, l'impression que j'allais vomir. J'avais l'impression de subir et puis à aucun moment qu'on me demande, est-ce que quelque chose pourrait un peu vous aider? Ou peut-être qu'en faisant ça, quand je change de position, qu'en faisant ceci ou cela, peut-être que ça vous aiderait à vivre les contractions. Après, donc, on m'a emmenée au bloc. J'étais installée sur la table. Et il y a une femme qui arrive avec une paire de ciseaux et elle me dit... Donc j'avais cette espèce de culotte là, un peu, je sais pas, une sorte de coton, enfin truc. Et puis elle me dit comme ça, moi je fais ça, voilà, hop. Et puis elle coupe de deux coups de ciseaux ma culotte, mais d'un coup comme ça, enfin de manière assez brutale, et puis elle me l'arrache. Alors bon, et j'étais en train de me dire, mais comment je peux être aussi peu considérée là. Enfin, je vis un truc pas marrant quand même. Et pareil, je suis restée sans voix. Et puis, on m'a endormie. Et après, salle de réveil, voilà. Et le lendemain matin, je me suis douchée, habillée très vite. Et puis, j'attendais. J'ai attendu toute la matinée. Et de temps en temps, quand je voyais l'aide-soignante que j'avais vue la veille, je me disais, est-ce que je peux sortir assez rapidement? Il faut que j'attende jusqu'à ce midi. Elle m'a répété plusieurs fois, « Ah oui, mais vous avez accouché tard hier. » Et là, je me disais, « Non, j'ai pas accouché, je vais accoucher d'un enfant un jour. » Dans le jargon médical, on dit accoucher de la même manière, j'en sais rien, mais moi, je le reçois pas comme ça. Je sais que si ça devait se reproduire, je ferais en sorte d'être accompagnée par quelqu'un qui a pour moi les qualités de m'aider à traverser ça. Là, si je devais de nouveau interrompre une grossesse, je pense que je dirais j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. On réfléchira quand je veux que ça se fasse. Est-ce que je veux l'interrompre? Ou est-ce que je veux mener la grossesse à terme même si l'enfant va mourir? Parce que c'est peut-être ça que j'ai besoin de faire pour aller au bout et faire mon deuil. Peut-être que c'est ça. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de permettre aux femmes de faire leur choix. Brick by brick, she's gonna take you down. She's gonna take your whole goddamn world down. Say what you want, I believe you're the one who can stand. Hear me say, she is chipping away. She is removing everything from your brain. Let you see.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Fausse Couche, un reportage de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Delphine Lemaire. Merci à Marie-Hélène et à Iris. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager vos expériences, vos témoignages, vos réflexions, et à cliquer, à liker, à retweeter, à partager notre travail s'il vous a intéressé. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Valérie Borst n'est jamais loin. Et Melville Letellier, c'est notre stagiaire.